Radio Okapi. Écho des développements.
Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouveau numéro des Codes du développement qui s'intéresse au programme de reboisement et d'aménagement des parcelles dans le territoire de Kasangoulou, dans la province du Congo central. Tati Mapoukou, c'est moi, Jean-Marc Matoua qui coordonne et supervise ce numéro. Alain Goy s'occupe de la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de cette émission.
Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Merci de rester branché à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Le territoire de Kasangoulou subit de plein fouet les phénomènes du changement climatique. La pratique de l'agriculture sur brûlis et la coupe incontrôlée des arbres pour la fabrication de la braise, dont la demande ne cesse d'augmenter dans la ville de Kinshasa, sont les quelques facteurs à la base du déboisement à grande échelle dans les territoires de Kasangoulou au Congo central. Cela a des conséquences fâcheuses sur l'environnement et sur le vécu quotidien de la population. Quelle solution alternative proposer à la population du territoire de Kasangoulou pour atténuer les effets du changement climatique? Vous aurez de plus amples informations au cours de ces magazines consacrés au programme de reboisement et d'aménagement des parcelles initiées par l'ONG Espoir pour tous dans les territoires de Kasangoulou au Congo central. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous prions de suivre les reportages produits au cours du lancement du projet de reboisement dans 4 villages du territoire de Kasangoulou.
Au Capi Service, à Kinshasa, en province et à travers le pays, découvrez vos problèmes grâce au reportage service.
L'opération de plantation des arbres au village d'Iboulou, dont le territoire de Kasangoulou a débuté vers 10h du matin, sous un soleil accablant. Les membres de l'ONG Espoir pour tous et les habitants de ces villages ont chacun apporté quelques jeunes arbres, à partir de la pépinière jusqu'au bord de la chaussée, plus précisément au niveau de la frontière entre Kinshasa et la province du Congo central. Le chef coutumier du village d'Iboulou est le premier à creuser et arranger les trous en mettant un peu du fumier, puis il plante les tout premiers flamboyants au bord de la nationale numéro 1, en prononçant ces quelques mots.
Je suis ravi d'être le premier à planter cet arbre dans la frontière entre la ville de Kinshasa et la province du Congo central. L'arbre que j'ai planté va permettre aux générations futures de savoir que leurs grands-parents qui ont vécu ici avaient planté les arbres. Les palmeraies et les autres arbres fruitiers renseignent que les gens avaient vécu dans un espace donné. Nous sommes vraiment très contents de ce projet de reboisement parce que l'arbre nous procure de l'oxygène et l'arbre nous rend beaucoup de services.
Après avoir planté et arrosé les jeunes flamboyants, les habitants du village ont continué l'opération de plantation des arbres sur la chaussée avec les membres de l'ONG Espoir pour tous venus de Kinshasa. Nous nous sommes ensuite rendus à Mingadi pour assister au lancement officiel du projet de reboisement. Tchenge Konko, chef du village Mingadi 1, a réservé un accueil chaleureux à ses programmes de reboisement, manifestant sa grande joie, ainsi que celle de son village, qui sera assaini et la population pourra s'abriter à l'ombre des arbres en période de forte chaleur, ajoute la chef du village Mingadi 1.
Nazane sengo mingi penza lokola papa yaki.
Je suis vraiment dans la joie comme mon village a été sélectionné dans ces projets d'éco-village initiés par l'ONG Espoir pour tous. Mingadi 1 est devenu très ouvert, même au loin on peut apercevoir ses habitants. Mon village était très sale, les herbes sauvages poussaient partout. Avec la venue de cette ONG, Mingadi 1 est assaini. Je suis vraiment très contente. Nous étions exposés au soleil, sur la chaussée et dans nos parcelles. avec les arbres qu'on a plantés au bord de la route et dans nos parcelles, nous aurons très prochainement de l'ombrage et de l'oxygène.
Merci papa, merci papa.
À son tour, M. Pierre, un habitant du village Mingadi 1, qui ne croyait pas du tout à la matérialisation de ses projets de reboisement et d'aménagement des parcelles dans leur village, s'est dit très satisfait de ces projets qui contribuent, selon lui, à la lutte contre les changements climatiques et à la sécurité alimentaire dans cette partie du pays.
On ne s'attendait pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons lancé déjà les activités pour le reboisement afin de lutter contre le réchauffement climatique.
En quoi ces arbres que vous allez planter le long de la chaussée sur la nationale numéro 1 vous seront utiles?
Bien, ça nous serait utile parce que d'abord, ça va nous donner, surtout les arbres fruitiers, ça va nous donner à manger. Et puis, les arbres là, d'autres arbres vont nous servir pour la lutte contre le réchauffement climatique.
Et est-ce que déjà ici, au niveau de la cité de Kasangulu, vous ressentez les effets liés au changement climatique? Qu'est-ce que vous le ressentez et est-ce que c'est vraiment important de procéder au reboisement le long de la route nationale numéro 1 et dans vos parcelles?
Effectivement, c'est vrai. Nous, on voit déjà qu'il y a un changement sur l'effet climatique. Parce que, vous voyez même la rareté de pluie. C'est pas comme auparavant. Il pleuvait beaucoup, mais actuellement ça pleut rarement. Alors, cela, si ça continue, nous n'aurons plus de production sur le plan agricole. C'est ainsi qu'avec tout ce que nous venons de faire ici, je pense que dans 3 ans, nous aurons un effet positif sur le réchauffement climatique.
Pour sa part, Augustin, président du comité local de suivi des développements durables de Mingadi 2, estime que ces projets de reboisement le long de la route nationale numéro 1 est très important. Car, explique-t-il, lorsque les arbres vont grandir, les usagers de la route auront l'impression d'avoir été invités sur un site touristique lorsqu'ils vont franchir la zone boisée.
Et pas une abisso et l'autre
Nous sommes très contents parce que notre village sera reconnaissable grâce à ces projets de reboisement. Les voyageurs qui vont commencer à emprunter la route nationale numéro 1 auront l'impression de se retrouver dans un site touristique une fois sur l'axe routier qui traverse nos villages. En tout cas, nous sommes très contents de l'exécution de ces projets de reboisement. Espoir pour tous a également mis en place le comité local des suivis du développement durable pour faire les suivis permanents de l'exécution de ces projets. Nous sommes très contents. Ces projets de reboisement a commencé aujourd'hui, nous ne sommes qu'au début. Il faut qu'il émerge et atteigne la maturité.
Vous venez là de suivre les grands reportages que nous avons produits lors du lancement du projet de reboisement sur la route nationale numéro 1 principalement, le long des 4 villages sélectionnés dans le territoire de Kasangulu. Ce projet de reboisement est lancé simultanément à Dibulu, Diaki, Mingadi 1 et 2. Ce programme de reboisement agroécologique s'inscrit dans le cadre du projet Éco-Village initié par l'ONG Espoir pour tous en collaboration avec Ossissa et le gouvernement provincial du Congo central. Plus de 3100 arbres seront plantés au bord de la chaussée pour des raisons d'amélioration du climat dans la zone. Les arbres fruitiers et la culture maraîchère sont aussi associés à ces projets de reboisement, soutient Luc Loutala, promoteur de l'ONG Espoir pour tous.
Très rapidement, on a commencé au village d'Ibulu. Ibulu, ça se trouve juste à la frontière Kinshasa-Congo central. Quand quelqu'un vient de Kinshasa, il arrive à la pancarte où c'est écrit « Au revoir Kinshasa ». Et donc de l'autre côté, c'est Ibulu qui commence, la petite pente. Et puis la courbure suit le village Mingadi 2. Et donc on a commencé par planter les arbres au niveau de Ibulu. On est arrivé, on a lancé le reboisement au niveau de Mingadi 2. Et puis finalement, à Mingadi 2, on a pu visiter le prototype d'une parcelle valorisée. Et puis après, on a visité la pépinière agroforestière avant d'aller lancer les activités au niveau de Mingadi 1 où on a fait exactement la même chose, ça veut dire lancement du reboisement agroforestier écologique le long de la nationale numéro 1, des parts et d'autres, visite de la pépinière, visite d'une parcelle pilote qui est le modèle en fait de comment nous voulons que les parcelles soient dans le futur.
4 villages sont concernés par ces projets que vous avez lancés récemment. Dites-nous, vous comptez planter combien de pieds les long de la nationale numéro 1 et dans les ménages, qu'est-ce qui sera fait exactement?
Alors, le long de la nationale numéro 1, il faut dire que chaque village prévoit de planter autour de 1033 arbres. Ça nous amène autour de 3100 arbres, un peu plus. Et dans les espaces parcellaires, nous avons 40 parcelles par village avec 10 arbres par village. Donc 120 parcelles sur le 3 villages, ce qui nous amène 120 fois 10, ça nous amène à 1200 arbres pour les 3 villages. Et les pépinières qu'on a pu visiter, chacune des pépinières a une capacité de 40 000 arbres. Il faut dire que, en plus des espaces le long de la nationale numéro 1 et des espaces parcellaires, chaque village a mis à disposition des communautés pour ce qu'on appelle l'agroforesterie communautaire, des espaces, des hectares, hein, et qui nous amène autour, si vous voulez, les pépinières, 40 000 arbres par pépinière, ça nous amène autour de 120 000 arbres à planter pour l'année qui vient, hein, la prochaine saison. Ça veut dire la prochaine saison qui vient sera une saison de tous les enjeux.
Et vous travaillez sous quelle approche? Vous le faites avec la communauté locale ou avec des techniciens recrutés par l'ONG pour travailler sur terrain?
Nous travaillons, vous savez, on a un grand pays. Et nous devons vraiment cesser avec cette mentalité de dire « moi j'ai fait, moi je suis, moi je peux sauver le Congo ». Personne ne peut sauver le Congo tout seul. Nous avons besoin donc de non seulement nous coaliser, mais en même temps compter absolument sur les acteurs locaux. Ce qui fait que, par exemple, dans le reboisement, chaque village a 4 techniciens. Il y a un comité local qui existe par village. Et donc, ce comité local avec lequel nous faisons des formations, le but, c'est vraiment que le comité local s'approprie et fasse une sensibilisation, ce qui fait qu'on est passé des 11 membres du comité local. Ensuite, tu as 4 techniciens par village. Ensuite, tu as les 40 parcelles par village. Et on a déjà maintenant le cercle des 40 villages par village. Les 40 parcelles est complètement en train d'exploser parce que les demandes commencent déjà à devenir suffisamment grandes et tout le monde veut s'engouffrer dans cette passerelle de la parcelle.
Oui, je vis ça parce que les longs de la route, il y a des parcelles qui imitent l'initiative, ce qui est très encourageant. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les essences boisées les longs de la route et dans les ménages sélectionnés?
Oui, d'abord, le début de chaque éco-village, comme la fin de chaque éco-village, seront caractérisés par la plantation des flamboyants, de tabebouya. Et puis, tu as ce qu'on appelle le katanga odorata, hein, qui est un arbre qui parfume. Donc, l'idéal, c'est que après une année, quand on passera dans ces villages, le soir, on passera dans un couloir des parfums. Et donc, on a aussi les arbres à croissance rapide, comme le lanéa, qui sont plantés déjà à Kinshasa vers l'échangeur délimité. On a les eucalyptus, on a le acacia traditionnel. Et puis, on a beaucoup d'arbres à croissance rapide. Mais ça, c'est la première bande. Mais après, les communautés, il faut qu'elles plantent des arbres, ce qu'on appelle les forêts comestibles. Une communauté n'a pas besoin d'aller protéger un acacia, sinon on le coupe après une année. Donc tout ça est mêlé avec non seulement des arbres fruitiers, mais en même temps la culture des aliments, des comestibles, hein, de l'agriculture entre les arbres, ce qui donne effectivement un sens au concept d'agroforesterie ou d'agroécologie.
Qu'il donne des fruits ou non, un arbre joue un rôle majeur dans l'environnement. Il nous sert des repères au fil des saisons et sait même se rendre utile en nous apportant de l'ombre partant ensoleillé. C'est ce qui fait dire au professeur Roger Kizungu Vumilia, directeur scientifique de l'Institut national des recherches agronomiques INERA, que celui qui n'a pas planté, ne fût-ce qu'un arbre durant sa vie, a perdu son temps sur terre.
Il y a un adage qui dit que celui qui ne plante pas l'arbre, c'est qu'il aura perdu son temps sur terre. Si tu restes toute ta vie sans planter au moins un arbre, c'est que tu as perdu ton temps sur terre. Ouais. Mais aussi, il serait mieux aussi dans la suite, Luc, certes, mettre ces arbres qui vont nous protéger contre le soleil, c'est bon. Mais si on y ajoutait aussi des arbres fruitiers, ça sera une route vraiment... imaginez-vous une route pleine de manga gofiba, ouais, pour tous les enfants qui passent.
En fait, la deuxième rangée, c'est des arbres fruitiers.
Ok, très bien. C'est vraiment une très bonne chose. Oui, oui, la communauté doit s'approprier de ces arbres-là. Ils doivent savoir que ce sont leurs arbres.
et qu'ils doivent les soigner, sinon on aura perdu du temps inutile.
Pour que les jeunes arbres commencent leur croissance dans les meilleures conditions, ils doivent être les plus sains possibles de leur plantation. Vérifier les branches et les racines et retirer tout ce qui n'est pas sain. Préparer bien les sols, enlever les mauvaises herbes avant de planter un arbre. L'arbre permet de donner la vie, d'après Madame Tina, membre de l'ONG Espoir pour tous, qui a également symboliquement planté un arbre sur la route nationale numéro 1 à la hauteur du village d'Iboulou.
L'arbre, c'est pour donner la vie, non? Ben voilà, je donne la vie oui, aux mailles. Générations prochaines. Oui. Okay. Pourquoi on a besoin de l'arbre? C'est pour donner la vie. Sans arbre, après, il y a les changements climatiques, il y a le problème écologique, il y a tout ce que vous voulez. Alors si on est en train de faire ça, on est en train de protéger la vie de ceux qui viennent.
Vous allez cette fois-ci arroser. Là, oui. Vous venez de planter symboliquement.
Merci. Nous arroser. Bon. Moi, chaque fois que je suis à bord d'un véhicule, quand je vois comme ça, je me dis oui, mais c'est bien, mais après, comment ça va se passer? Vous avez vu tout ce qu'on a pris comme on a déboisé au niveau de l'Imété. Aujourd'hui, il fait extrêmement chaud. S'ils avaient laissé, on aurait pris cette chaleur.
Le professeur Roger Kizungu Vumili a également planter symboliquement un arbre au bord de la route nationale numéro 1 en montrant les étapes à suivre lorsqu'on est en train de planter un arbre.
Et d'abord, le principe, c'est qu'il ne faut pas chercher loin la matière dont on a besoin. Il faut chercher vraiment à quelques mètres, tout simplement. Nous avons mis, en principe, on devait commencer par l'herbe sèche, 10 cm, l'herbe fraîche, 10 cm. Après ça, on met suffisamment de terre. Puisque nous le faisons, on devait attendre 2 semaines. Mais cette couche de terre, c'est pour éviter la chaleur. Après, la plante va manger calmement. Vous viendrez la retrouver. Elle sera très verte. Elle sera en bonne santé. Puisqu'elle est en train de manger les microbes qui sont en train de se décomposer sur ces plantes.
Ouais. Alors, quel est votre souhait si vous passez ici dans une année ou 2 ans dans la zone où on est en train de reboiser?
Oui, c'est les rêves. On imagine que ça sera très joli d'ici peu. Ça ne traîne pas ces histoires ici. Vous allez vous étonner comment l'année prochaine, on viendra trouver cette arbre ici. L'année prochaine. Donc après, ça part.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Bienvenue à ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion. Vous êtes en train de suivre Écho du développement sur Radio Okapi, votre magazine qui traite les questions de l'environnement et des développements durables, qui s'intéresse aujourd'hui au projet du reboisement et d'aménagement des parcelles dans le territoire de Kasangoulou. Nous sommes là au Congo central. Donnons cette fois-ci la parole à Madame Émilie, qui a bénéficié du projet d'aménagement des parcelles initié par l'ONG Espoir pour tous dans 4 villages du territoire de Kasangoulou. Cette dame, la cinquantaine révolue, nous révèle la manière dont leur résidence est aménagée grâce au projet Éco-Village lancé par l'ONG Espoir pour tous dans cette partie du pays.
Notre village s'appelle Mingadi 1. Nous sommes ici dans notre parcelle familiale. Nous avons aménagé dans notre parcelle un endroit pour les jardins et une maison d'habitation. Nous avons également prévu 2 poubelles pour les déchets dégradables et non dégradables. Les déchets dégradables vont nous servir à produire du compost dans ces puits creusés non loin des jardins. Nous allons commencer à jeter dans ce trou les déchets ménagers et de l'eau non savonneuse pour avoir du compost devant nous aider à enrichir les sols de nos jardins. Nous allons également planter dans notre parcelle les safoutiers, les manguiers, les avocatiers et les pommiers. Et ici, dans nos jardins, nous allons cultiver les amarantes, les épinards, les gombos, les feuilles des patates douces et des maniocs. Tous les légumes que nous consommons couramment seront cultivés dans ces jardins. Je constate que cette technique culturelle et d'aménagement des parcelles est des lois meilleures que celles qu'on faisait par les passés.
Eco Village demeure la solution miracle pour le développement selon Luc Loutala, nous rappelons qu'il est le président de l'ONG Espoir pour tous. Il contribue à la lutte contre les changements climatiques et assure le développement durable des communautés locales. En RDC, Eco Village est dans sa phase d'expérimentation dans 4 villages de Kasangulu.
Bah, ce modèle, la finalité, c'est juste que les gens reprennent confiance en eux-mêmes, que nous avons suffisamment de ressources pour non seulement lutter contre la pauvreté, mais aussi riposter contre les effets de changement climatique. Et là, toutes les techniques qu'on est en train d'utiliser, c'est des techniques suffisamment standardisées pour contribuer au changement climatique. Donc c'est vraiment des techniques bio, si vous voulez, écologiques, mais en même temps, c'est des techniques qui sont à la portée de tout le monde. Hein. Le fumier, les arbres poussent à tout moment, donc, et les gens les brûlent, alors que c'est vraiment une richesse qui permet aux gens d'économiser énormément d'argent au lieu d'aller acheter des engrais chimiques qui vont ensuite polluer le sol et l'appauvrir.
Monsieur Luc, est-ce qu'en Afrique, il y a des pays qui ont fait preuve de ces concepts éco-village? Est-ce qu'il y a des cas qui marchent et vous espérez dupliquer cela dans cette partie du pays et par après aller plus loin?
Oui, en fait, on a des pays qui sont un peu plus en avance que nous, hein, parce qu'il faut dire, le réseau éco-village est mondial. Hein, et dans chaque continent, on a ce qu'on appelle le réseau africain, le réseau continental des éco-villages. Et au niveau de l'Afrique, nous sommes maintenant 39 pays qui constituent ce qu'on appelle le réseau africain des éco-villages. Et parmi ces 39 pays qui constituent le réseau africain des éco-villages, la RDC, il faut le signaler, est le quatrième pays à avoir une autorisation, un réseau qui fonctionne, qui soit reconnu officiellement sur les 12 qui sont arrivés à ce stade aujourd'hui. Mais bon, on a le Sénégal qui est quand même beaucoup en avance parce qu'ils ont un ministère national hein, des écovillages avec une agence nationale des écovillages. On a l'Égypte qui est très 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 loin avec le modèle Sekem hein, qui est en train complètement de se disséminer et de casser tous les mythes de la pauvreté parce que Sekem, vous imaginez, c'est un écovillage qui dépense ne serait-ce qu'en termes de recherche 20 millions de dollars l'année. Et donc, ça, c'est des gros modèles qui sont très loin de ce que nous faisons, mais il faut le signaler. Même si on peut compter l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana, qui sont un peu plus en avance que nous, nous sommes sur une approche éco-village qui est complètement différente, qui est holistique et qui se base sur les communautés. Ben, il faut d'ailleurs souligner que si le président Macky Sall aujourd'hui a été élu, c'est parce qu'il était effectivement le ministre des éco-villages avant les élections présidentielles. Et là, les gens l'oublient souvent, les communautés ont vraiment besoin de changement, ce qui fait qu'il a été complètement propulsé. Et quand il y a eu les élections, la population n'a pas hésité à le voter.
Sur la chaussée, les arbres devant servir d'ombrage sont en cours de plantation le long des villages de Kasangulu, selon l'ingénieur agronome Chico Bampoul, membre de l'ONG Espoir pour tous. Il nous fait visiter les deux pépinières installées dans la zone dans le cadre de ces projets.
Nous avons fait ce bon de reboiser et d'abord les lanéa. Nous avons le terminal ivorien ici pour l'ombrage. Nous avons les eucalyptus et cambandelensis. Nous avons les canna odorata. Nous avons des lanéa wilwiti. Ce sont des espèces que nous avons jugées bonnes pour le moment, justement les reboiser le long de la route nationale numéro 1 de Matadi.
Et vous avez envisagé planter combien d'essences par village le long de la route?
Le long de la route, nous avons estimé à planter 1033 individus par village.
Au-delà de ces programmes, vous avez également des projets d'aider les communautés locales à planter des arbres fruitiers dans les parcelles?
Et tout à fait, normalement. C'est la deuxième phase qui suivra de la valorisation que j'allais dire auparavant, la valorisation des espaces parcellaires. Nous allons semer les arbres fruitiers, les avocatiers, les safoutiers, les poilis, le manguier, au fait 4 ou 5 arbres fruitiers par village. Et pour le moment, nous avons sélectionné 40 villages, 40 parcelles, j'allais dire, par village. Et donc, on aura à reboiser 380 arbres fruitiers le long dans 40 parcelles.
Ces arbres en croissance dans les poquets doivent être arrosés matin et soir. Cependant, l'accès à l'eau pour arroser ces essences en croissance est très difficile à en croire l'ingénieur Chico Bampoul. Nous rappelons qu'il est membre de l'ONG Espoir pour tous.
Et nous sommes à village Mingadide, il n'y a pas d'eau. Donc on se ressource au moins de l'eau de pluie, on achète un bidon d'eau à 1500 francs, des fois à 1000 francs. Voilà, les arbres, la seule nourriture pour qu'ils croissent, c'est de l'eau. Et donc c'est ça un pied que nous lançons quand même un appel aux gens de bonne foi, s'ils peuvent quand même accompagner l'espoir pour tous, accompagner cette communauté tout près de Kinshasa qui est en train de souffrir et puis les accompagner dans le développement holistique et à quatre dimensions prôné par Espoir pour tous.
Nous sommes là dans la pépinière et je vois des poquets. Quelles sont les espèces d'arbres que vous avez plantées ici et ils ont quel âge ces arbres?
Ok, merci beaucoup. Ici, nous avons la diversité des arbres, mais nous avons d'abord voulu installer d'abord les arbres pour l'agroforesterie et le reboisement de la route nationale. Donc, ici, nous avons 900 individus de l'Anéa, nous avons 1000 individus de Albizia Lebeke, nous avons encore 1000 individus de l'Essena, nous avons 1000 individus de Acacia auriculformis, nous avons 1000 individus de Terminalia ivorensis. Nous avons aussi 1000 individus des Milletia laurienti. Donc, nous sommes en fait à 7400 individus déjà dans cette pépinière. Mais l'idée, c'est d'arriver à 40 000 jeunes plants dans la pépinière communautaire.
Les projets Éco-Village a pris corps petit à petit, mais les plus grands défis, selon M. Luc Loutala, président de l'ONG Espoir pour tous, demeure la difficulté d'accès à l'eau pour faciliter les activités qui sont menées sur terrain et permettre à la population de ces quatre villages de vivre décemment.
La méfiance de la population, c'est le premier défi. Nous avons affaire à une population qui est suffisamment déçue par des expériences du passé, depuis l'indépendance, pas seulement des ONG.
Vous avez commencé les négociations il y a 2 ans.
Mais oui, pour qu'on arrive à se faire accepter, ces 2 années, on est en train d'aller vers la 3e année, effectivement, avant que les communautés vous fassent confiance. Et à part ça, il y a le problème de l'eau. Nous sommes arrivés à ce niveau. Il faut qu'on arrive à défier les saisons pour créer le développement. Ça veut dire que si les communautés doivent réussir dans la culture de la permaculture et même de l'agroforesterie dans ce système, il faut qu'il y ait de l'eau potable. Or, justement, sur cette partie, l'eau est un véritable casse-tête et reste un véritable défi. Nous avons besoin que les gens de bonne volonté viennent soutenir les efforts formidables de ces communautés des Diboulou, des Mingadi 2 et des Mingadi 1. Vous l'avez pu constater, c'est des gens qui ont vraiment pris confiance en eux.
Ils sont très motivés à réussir ces projets.
Optimalement motivés, ils travaillent sous le soleil et là, ils sont complètement engagés. C'est des gens qui méritent un coup de main et nous avons besoin que des partenaires qui peuvent appuyer l'acheminement de l'eau, ceux qui peuvent appuyer l'accompagnement, la structuration des communautés. Et il va de soi, chaque village a déjà des pépinières. C'est des gens qui n'ont besoin que d'appui. Et donc, tous les personnes de bonne volonté, les organismes qui peuvent nous soutenir sont les bienvenus. Et nous serons vraiment, ce sera pour le bonheur de ce pays et de ces communautés.
C'est par les plaidoyers de M. Luc Loutala, président de l'ONG Espoir pour tous, que nous clôturons les magazines Écho du développement consacrés au projet de reboisement et d'aménagement des parcelles lancées par l'ONG Espoir pour tous dans les territoires de Kasangoulou au Congo central. Je suis Tati Mapoukou et ce fut pour moi un plaisir de présenter cette émission. Jean-Marc Matois qui a coordonné et supervisé ces magazines, Alain Goyi était à la prise de son. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. À bientôt.